Bonsoir à tous et bienvenue sur Archéociné. Archéociné, le podcast qui déterre les pépites du grand écran. Avec moi, il y a Blood. Salut Blood.
Salut Bruce. Et salut à tous.
Et comment ça va? Bien.
Impec.
T'as vu, je fais la question et la réponse dans la même question. Et oui, bonsoir à tous et bienvenue pour nous retrouver sur cet épisode 21. Épisode 21 qui va être consacré à, on va le voir après. Avant, je voulais remercier Monsieur Ramirez qui nous a laissé un commentaire sur le blog. Il nous dit « Beau travail, très belle sélection, c'est ce qu'on appelle des pépites. Continuez à nous faire redécouvrir, voire découvrir des chefs-d'œuvre du 7e art. » Voilà, donc merci à toi pour ton commentaire. Et une fois, je me rappelle plus si je l'avais lu, on avait eu un épisode, on avait eu un commentaire après l'épisode de La Partie. Hein, et c'est Bobby Chouf qui nous disait « Bonne émission ». Peter Sellers est un géant du cinéma et sa prestation multiple, les trois personnages principaux dans Dr. Stranglove, me met toujours KO à chaque fois que je vois le film. Hein, donc, Dr. Follamour, il parle. Il l'a dit en VO. Par contre, faute de goût, Monsieur Blood, osez dire que Breakfast at Tiffany's est moyen. Non, mais vraiment. Il vous faut le revoir vite pour mettre les pendules à l'heure. C'est une des plus belles interprétations d'Audrey Hepburn, en toute nuance douce amère. Même si le film s'éloigne beaucoup du livre de Truman Capote, au grand dam de l'auteur, il y aurait d'ailleurs une belle émission à faire là-dessus, car Capote et Hepburn ont pas mal parlé sur ce film à propos du personnage de Holly et des divergences entre le livre et le film. Pour The Party, il faut effectivement le voir tellement il est absurde, et part dans un bordel sans nom, mais je suis d'accord avec vous, ce n'est ni le meilleur film de Black Edwards, ni celui de Peter Sellers. Vous avez diffusé un extrait où l'Indien donne à manger un oiseau en cage, il y a une anecdote marrante sur cet extrait. Dans la version originale, l'Indien dit à l'oiseau « Num num birdie num num » avec un accent bien prononcé. C'est exactement de là que le groupe mondialement connu de 4DG, français Birdie Num Num, a tiré son nom. Bonne continuation à vous. Et pour la petite anecdote, je le savais pour ce groupe de musique.
Et puis moi j'avais revu après, avant que la personne mette le commentaire, Diamant sur canapé. Puis je l'ai mieux aimé que la première fois que je l'avais vu finalement.
Donc allez, on enchaîne. On va écouter la musique d'intro du film pour deviner qu'est-ce qui est. Et voilà, je sais pas si vous l'avez reconnu. Il est un petit peu difficile à reconnaître parce que il est ancien. Je dis pas vieux, hein. Il est ancien et pas tellement connu. Il passe plus tellement maintenant. Il s'agit de 20 000 lieues sous les mers. Hein, 20 000 lieues sous les mers, c'est un film américain réalisé par Richard Fleischer pour Walt Disney Productions. Il est sorti en 1954 et s'adaptait du roman éponyme de Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Le roman, lui, est paru en 1869-70. Et pour la petite anecdote, c'est la première grosse production des studios Disney réalisée en prise de vue réelle. Voilà. Et c'était à l'époque le film même le plus cher de l'histoire du cinéma avec un budget de 5 millions de dollars. Qui est un petit peu débordé. On va le voir un petit peu plus loin. Mais ouais, en fait, on peut dire que c'est le premier gros blockbuster de Disney. Maintenant, il en fait plein maintenant avec tout ce qui est Marvel, Star Wars.
Oui, Pirates des Caraïbes et tout ça. Là,
mais voilà. Donc, allez, vas-y, je te laisse lire un petit peu le petit synopsis, même si on connaît.
Ah, mais je lis pas, hein, je fais toute tête.
Dire, je voulais dire.
Ça se passe.
Je voulais ça dire, pas lire, dire.
Alors donc, ça se passe en 1868. Donc, il y a un monstre mystérieux qui s'acharne sur des bateaux qui se baladent dans le Pacifique. Et donc, alarmé par le phénomène, donc le gouvernement américain arme une frégate. Et donc, naît d'un fabuleux harponneur, Aronnax, un homme de science, et son assistant. Et donc, ils partent à la recherche du monstre soupçonné.
Ouais. Et il leur arrive pas mal d'aventures. Et donc du coup on attaque un petit peu par l'équipe technique hein, on a dit que c'était réalisé par Richard Fleischer, mais il a pas fait ça tout seul, il a été assisté de James Haven et de également de Tom Connors et de Russ Avrick. On a un scénario de Earl Felton, donc c'est parce que pour l'adaptation hein, du roman de Jules Verne. À la photographie, on a Franz Planer, Ralph Amras pour les effets spéciaux, Till Gabani pour les prises de vue sous-marines. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a des effets spéciaux de John Hench et Josh Midor. Musique de Paul G. Smith. Société de production, donc Walt Disney Productions. Et une durée de 127 minutes, donc un petit peu plus de 2 heures, 2h07. Alors l'équipe technique, hein, c'est des gens de chez Disney. Hein. Ils sont tous des studios Disney. Ils viennent tous un petit peu. Ils avaient fait des petites choses un petit peu avant, on le verra, hein, Mickey, etc. Machin. Et déjà, on va parler de. Avant de parler de Richard Fleischer, on va se passer déjà un petit extrait.
C'est parti.
Il y a un rescapé du Golden Arrow qui a été coulé. Il vous dira ce qui s'est passé. Monte ici, Billy. Dis-leur ce que t'as vu, Billy.
J'ai vu le monstre, c'est exact. Une encablure de long et je l'ai vu de mes yeux. C'était comme une bête hurlante dans la nuit. Avec un œil aussi gros qu'une lanterne de phare. Boum ! Là qui nous balance sur un bord. Boum ! Il nous envoie sur l'autre bord. Et ensuite, il nous prend en plein milieu. Ça a tout brisé et on a coulé. 40 pauvres marins péris en mer.
Ce qui est certain, c'est qu'il s'attaque au bateau. Et c'est un miracle que Billy soit encore vivant. Parle un peu de ses dents, Billy.
Large comme une brigantine, je le jure.
Eh oui, tout le monde pense au un gros monstre qui sévit. Donc, tu vas nous parler, tiens, de Richard Fleischer. Qu'est-ce qu'il a fait un petit peu avant, qui il est, etc. D'où il vient?
Oui, donc d'où il vient, ça je ne sais pas, mais c'est un réalisateur américain. Il est né en 1916, il est mort en 2006. Donc, il a d'abord essayé de devenir acteur. Mais il est engagé comme monteur de films, plus pour la RKO Pictures, pour les actualités. Il réalise ensuite des courts-métrages, puis des films de série B, et puis après il a fait des films quand même de plus gros budget, avec des grandes vedettes, en passant en cours de route, il a opté un peu à la Fox et puis à la MGM. Puis en 1953, donc, il a été engagé par Walt Disney Pictures pour résoudre la complexité technique du tournage donc du film qu'on est en train de parler là. Et puis donc en raison du travail sur le format Cinémascope avec la film Arena en 53. Donc il a fait plusieurs sortes de films. Donc il a fait film noir comme Bodyguard. C'est le scénario, il était coécrit par Robert Altman. Il était débutant. L'assassin à son visage, l'énigme du Chicago Express, il a même fait du peplum, il a fait Barabbas comme peplum, une comédie, c'est l'extravagant Docteur Doolittle, ouais, western aussi, duel dans la boue, il a fait aussi des films de guerre, Le temps de la colère, c'est sur la guerre de Corée, et Tora, 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 sur l'attaque de Pearl Harbor, et puis il a fait aussi un film de science-fiction, il a fait Le voyage fantastique, puis Soleil vert. Et il a eu également Les Vikings en 58 avec Kirk Douglas. Voilà. Et donc, ouais. Après Soleil vert, la carrière de Fletcher, et donc il a eu un petit essoufflement, un peu comme moi, si on peut dire. Il a eu un succès quand même en 84 avec Conan le Destructeur. Après Soleil vert, la carrière de Fletcher a connu un petit essoufflement, et donc il a eu quand même un petit succès en 84 avec Conan le Destructeur. Et donc, c'est le deuxième avec Schwarzenegger pour Conan, vu que ça, non, c'est Conan le Barbare. Et donc, il y a eu aussi Ashanti et Kalidor, la légende du talisman.
Yes. Mais bon, ouais, c'est vrai que ils sont pas. Ils sont gentils, celui-là. D'ailleurs, Kalidor, la légende du talisman. normalement,
moi, c'est... je l'aime bien de temps en temps avec le môme là. Aïa! Aïa!
Ouais, mais normalement, c'est Red Sonja. Ailleurs dans le monde, c'était Red Sonja. Sonia Larousse. Qui est aussi un roman écrit par Howard. Hein, Howard, qui est l'auteur aussi de Conan. Et je peux bien en parler parce que je les ai lus. Et c'est vrai que, bon, il a pas. À l'époque, c'était pas. Même l'affiche, hein, normalement, c'était. L'actrice, c'était la grande blonde, là. Elle était copine avec Stallone aussi.
Ouais, bah, il y a Connie
Brigitte Nielsen. J'allais dire Leslie Nielsen. Brigitte Nielsen. Et il y a que sur les ils ont changé l'affiche en France. Ils ont mis Schwarzenegger et elle est en arrière-plan. Alors qu'à la base, c'est vraiment Red Sonja. Bref, tu as parlé ouais de voyages fantastiques, Soleil vert, tout ça c'est des Vikings, les Vikings, faudra c'est des trucs qu'on fera. Et c'est des super films, même Tora Tora Tora. Aussi c'est des trucs ouais, il a fait des bons films. Allez, on va se faire un petit extrait, on va avancer.
Est-il vrai que le départ est de nouveau annulé?
Hélas, c'est exact, oui, professeur Aronnax. L'équipage a quitté le bord.
Mais nous devons aller à Saïgon. Est-ce qu'il n'y a pas un autre bateau?
Non, aucun, à mon grand regret. Suivant.
Voilà, donc là, c'est une des raisons pour laquelle le professeur Aronnax va rester sur place et va pas pouvoir partir et assister à la traque avec son maître d'hôtel, on peut, ouais, qui s'appelle Conseil.
Comme serviteur, ouais, Conseil.
Ouais. Et on va attaquer la distrib, vu qu'on parle des personnages. On a Kirk Douglas qui joue Ned Land. On a James Mason qui est le capitaine Nemo. James Mason qu'on avait déjà vu dans un épisode avec.
La mort aux trousses,
ouais, merci. Je l'avais sur le bout de la langue. On a Paul Lucas, qui est le professeur Pierre Aronnax. On a Peter Lorre, qui joue le rôle de Conseil, hein, le maître d'hôtel du professeur. On a Robert G. Walk, qui est le commandant second du Nautilus. Ted De Corsia, qui est le capitaine Farragut. On a Carlton Young, qui est John Howard. Et J.M. Kerrigan qui joue le rôle de Billy. Donc bah dedans on retrouve un Kirk Douglas qui nous a quitté il y a pas très longtemps, hein.
Début de l'année, ouais.
Ouais, 104 ans, c'est ça? 103 ans?
103, ouais, je crois.
Donc lui, il est né Isur Danielovitch Demski de son vrai nom. Il est né en 1916, hein, et il nous a quitté en 2020. Acteur, producteur, réalisateur, écrivain, américain. Et c'est le père également de l'acteur Michael Douglas. Donc bah Kirk Douglas, hein, c'est une des figures majeures du cinéma américain. Hein. C'est un des acteurs les plus populaires au monde et surtout dans les années 50 et 60. Il a un nombre de films classiques assez conséquents. Il excelle dans tous les genres. Hein. On peut le retrouver dans des films de comédie.
Guerre.
Au fil de l'épée, ouais, en 59. On a des films d'aventure, hein, bah, comme l'épisode d'aujourd'hui. Également, on le retrouve dans Les Vikings en 58. Il a fait des westerns avec Règlement de compte à Hockey Corral en 57. Des péplums avec Spartacus en 60. Les films de guerre, il a touché aussi en faisant Les Sentiers de la Gloire en 57, 7 jours en mai en 64, Les Héros de Télémark en 65. Il a fait des films de drame aussi, La vie passionnée de Vincent Van Gogh en 56, Seuls sont les Indomptés en 62. Donc il a fait pas mal de gros et bons films. Je veux dire. Il a aussi tourné avec beaucoup de réalisateurs réputés, hein, Brian De Palma, Stanley Kubrick, Vincente Minnelli, John Huston, Howard Hawks, Otto Preminger, Joseph L. Markiewicz, Elia Kazan, Billy Wilder, King Vidor, tout ça c'est, attention, c'est de la crème. Donc bah lui, il a commencé sa carrière en 46, hein, dans le film L'Emprise du Crime de Lorraine Bacall, en intervenant auprès de Wallis, qui lui permet d'obtenir le troisième rôle dans ce film, où il joue le mari de Barbara Stanwyck. Et en fait, le fait d'obtenir ce rôle-là, bah, comme il va donner la réplique à Robert Mitchum dans La Griffe du Passé, et du coup, de fil en aiguille, il va rencontrer Burt Lancaster dans L'Homme aux Abois. Et bah là, du coup, comme on voit qu'il a du potentiel, il va signer un contrat avec la Warner. Et puis c'est là qu'il va enchaîner plusieurs films, hein, La Femme aux Chimères, Le Gouffre aux Chimères. Et ça va lui permettre de rencontrer et même de séduire un grand nombre de stars féminines, hein, dont Rita Hayworth, Jane Tierney. Et puis il était fatigué de l'emprise des studios que les studios avaient sur lui. Il a décidé de pas renouveler son contrat après le film La Vallée des Géants. Et du coup, bah comme il était entre guillemets devenu libre, et ben il a tourné un western de Howard Hawks, hein, La Captive aux yeux clairs. Puis il a fait Les Ensorcelés de Vincente Minnelli, film pour lequel il manque d'ailleurs de remporter l'Oscar du meilleur acteur. Et puis dans les années 50-60, on le retrouve dans La vie passionnée de Vincent Van Gogh, Règlement de compte à Hockey Corral, Les Vikings, Spartacus, Les Sentiers de la Gloire. Mais à partir de 73, bah, comme il voulait plus tourner que les films qui l'intéressent, eh ben, il a fait des choses moins intéressantes. Il a commencé par produire Holocaust 2000 en 77, Saturne 3 en 80. Pas mal ce film de science-fiction. J'ai vu un peu série B, C, D, mais moi j'aime bien avec le gros robot là.
Parce que j'avais vu des commentaires sur ce film que c'était pas top.
Ouais, c'est marrant. Il y a un gros.
C'est sûrement à voir quand même, je pense.
Et bah d'ailleurs, Saturne 3, il a été nommé aux Razzie Awards. Donc les Razzie Awards, hein, c'est un peu les nanars. Mais bon, c'est bien des fois d'être nanar, ça fait parler de toi. Et puis bah en 78, il a fait Fury, qui lui permet de se frotter au nouvel Hollywood avec Brian De Palma. Et il a fait aussi Nimitz, Retour vers l'enfer en 80.
Il est dedans, d'ailleurs.
Ouais. Enfin, oui, quand je dis il a fait, il a tourné dedans. qui fait un peu film de guerre, science-fiction, quoi. Mm. Et bah du coup il a près pratiquement 91 films films à son actif. C'est quand même assez conséquent. Voilà pour le monsieur Douglas. Qu'est-ce que tu nous as à dire sur James Mason qu'on avait vu
déjà présenté, ou on peut le représenter, on sait jamais, ouais, ça vas-y. Coûte rien. Donc il est donc acteur britannique. Il était né en 1909, il est mort en 1984. Et donc dans son actif, donc il a plein de films, donc un film 8 heures de sursis de Carol Reed, l'affaire Cicéron de Joseph McKenzie, 20 milieux sous les mers donc de Richard Fleischer, La mort aux trousses, le fameux épisode qu'on avait fait, Le prisonnier de Zenda de Richard Thorpe, La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann, La mouette et le verdict de Sidney Lumet, Le piège de John Huston, aussi il y a Lolita de Stanley Kubrick. Et donc il est considéré comme l'un des plus grands acteurs britanniques et hollywoodiens. Il a 84 films donc à son actif. Et le premier film c'était en 35, Let Extra. Et le dernier c'est en 85 avec The Assisi Underground.
Ouais. Allez, on s'écoute un petit extrait.
Je crois avoir rempli toutes mes obligations envers cette légende du monstre marin. Ces cartes en sont le témoignage. Elle représente exactement une croisière de 3 mois consacrée uniquement à la recherche du monstre. Tout bien considéré, je pense qu'un tel monstre ne peut exister. Oui, messieurs.
Alors, vous abandonnez les recherches ?
Quelle autre solution, professeur ? Même si le résultat est négatif, nous allons du moins faire taire ces rumeurs et, par conséquent, obliger les journaux à se rétracter.
Mais il me semble toutefois que nous ne prouverons rien d'une façon ou d'une autre, commandant.
C'est qu'il n'y a aucune raison pour que je perde davantage de temps. Messieurs, c'est décidé. Nous vous conduirons à Saïgon. Messieurs.
Et oui, donc encore des décisions unanimes du capitaine du navire, parce qu'ils ont rien trouvé, alors du coup, ils trouvent pas autre chose que de dire que sa conclusion, c'est que le monstre n'existe pas. Mais...
À voir.
Donc, pour poursuivre, on a aussi après, on a aussi Paul Lucas. Lui, c'est un acteur hongrois. Il est né en 1894. Il est mort en 1971. Il a débuté sa carrière d'acteur en 1922 avec Samson und Delila. Ah, c'est, j'ai pas trop l'accent hongrois. Et il a plus de 33 films tournés, dont Une femme disparaît, Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, Lord Jim, Berlin Express, Quand le jour viendra. Et le dernier, c'est en 68 avec Les Corrupteurs. On a aussi Peter Lorre, nom de scène de Laszlo Lowenstein. Lui, c'est un acteur, scénariste et réalisateur autrichien et naturalisé américain en 41. Il est né en 1904, mort en 64. Il a été révélé par Fritz Lang dans M le maudit. Ça, c'est un film génial. Du coup, où il joue le rôle titre. Hein. Film de 1932. Il a fui aux États-Unis où il poursuit une carrière de second rôle notamment dans Casablanca, Le Faucon Maltais ou encore 20 milieux sous les mers. Et ouais. On peut même le retrouver, tiens, aussi dans Arsenic et vieille dentelle. Ça aussi, c'est trop marrant.
J'adore ce film.
Et pour finir, on a Robert G. Walk. Vas-y, Blaud.
Alors, donc, Robert Joseph Wick, donc Bob, et donc il est né en 1914, il est mort en 1989. Donc, il a débuté comme figurant dans le film San Francisco de Van Dyck. Donc c'est avec Clark Gable, quand même, c'est pas de la gnognotte. Et donc ce film est de 36. À partir des années 50, les années avant, il n'était pas crédité comme nom d'acteur. Et donc il tient régulièrement des seconds rôles de caractère, souvent des méchants et principalement dans les westerns. Donc comme film, on l'a pu le voir dans Le Train sifflera trois fois. Ça me dit quelque chose, ça, comme c'est l'épisode combien? Donc de Fred Zinnemann en 52 avec Gary Cooper et Grace Kelly, bien sûr. Dans Je suis un aventurier avec James Stewart et Walter Brennan. Dans L'homme de l'Ouest avec Gary Cooper. Alors ensuite, on le voit dans Les Sept Mercenaires avec Steve McQueen, bien sûr, puis Yul Brynner. Et sur la piste de la Grande Caravane en 65 avec Burt Lancaster et Lee Remick. Et ça, c'est un film de John Sturge. En dehors des westerns, donc, il a fait quand même 20 milieux sous les mers de Richard Fleischer, donc avec Kirk Douglas, comme on en parle en ce moment. Écrit sur vent de Douglas Sirk en 56 avec Rock Hudson et Lorraine Bacall. Spartacus en 60 avec Kirk Douglas et Laurence Olivier. Et aussi Les Moissons du Ciel de Terrence Malick. Et puis un de ses ultimes films, c'est malheureusement celui-là. C'est avec Richard Gere et Brooke Adams, donc Les Moissons du Ciel. Et donc on s'écoute un extrait.
N'étiez-vous pas à bord de la frégate qui m'a attaqué?
Si, nous étions certains d'être en présence d'un monstre marin et non pas d'un bâtiment conçu par l'esprit de l'homme. Je vous présente Ned Land, maître harponneur, mon domestique, Conseil, et je suis Pierre Aronnax, professeur au Muséum de Paris.
Le professeur Aronnax? J'ai passé bien des heures à lire vos écrits. Je me réjouis à la pensée que vous différez quelque peu de vos compagnons dans le crime. Vous pouvez rester. Les deux autres sur le pont.
J'aime pas beaucoup ça, moi. Mais qu'est-ce qu'on fera, nous autres, là-haut?
Je regrette, je ne vous ai pas invité. Vous êtes venus comme des ennemis.
Pas du tout, c'est faux, mais quel mal ont-ils fait?
Et dites donc, c'est pas notre faute ce qui s'est passé, non?
Quant à moi, je demande justice.
L'océan vous jugera. Il vous a conduit ici qu'il vous remporte.
Montez, voyons, on sait.
Toi, t'as osé me toucher!
Mais est-ce ainsi qu'on agit entre civilisés?
J'avoue, je ne suis guère civilisé, monsieur le professeur. J'ai rompu avec la société pour des raisons qui me conviennent. Je n'obéis donc plus à ses lois.
Mais capitaine, je suis aussi coupable qu'eux. Capitaine!
Faut pas le titiller, le père Nemo. Hein.
Oui, il a pété les câbles, je trouve, quand même.
Ouais, mais bon, quand on sait d'où il vient, pourquoi il fait ça.
Oui, voilà, ouais.
Voilà. Il a ses raisons, et c'est normal qu'il ait ce caractère. On a quelques petites récompenses et nominations. Hein. On a eu un Oscar des meilleurs effets visuels en 55, ainsi qu'un Oscar de la meilleure direction artistique et une nomination pour l'Oscar du meilleur montage. Voilà. Et puis au niveau de ce film a une origine, hein, pour sa production, c'est que quand les studios Disney, hein, ont décidé d'adapter le roman 20 milieux sous les mers, du coup ils se retrouvaient un petit peu handicapés par l'absence d'une équipe dédiée aux films en prise de vue réelle, parce que c'est vrai, je le rappelle, c'est leur premier gros film en prise de vue réelle. Jusqu'à présent, Disney, c'était du dessin animé. Disney avait précédemment tourné des films en prise de vue réelle dans des studios du Royaume-Uni. Mais le mauvais résultat, par exemple, d'Échec au Roi en 53, ça a poussé Disney à arrêter la production à l'étranger. Et donc après, ils ont tenté alors de réunir quelques personnages et en premier lieu un réalisateur pour 20 milieux sous les mers. Et ils ont choisi Richard Fleischer. Et initialement, le studio avait engagé John Tucker Battle pour écrire le scénario, mais Walt Disney n'était pas satisfait de son adaptation. Et donc, aux côtés de Fleischer, le studio a engagé le scénariste Earl Fletton, qui avait régulièrement travaillé avec Fleischer chez RKO. Hein, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que le film avait été réalisé avec trois autres personnes. Et donc du coup, le film est conçu comme un film à gros budget avec des vedettes d'Hollywood. C'est le tout premier film en prise de vue réelle à gros budget des studios Disney, hein. Et Steven Watts, précise que de nombreux projets au tournant de la décennie avaient été l'occasion de disputes au sujet des finances entre Walt Disney et son frère Roy, mais qu'étrangement, Roy a accepté d'importants budgets nécessaires à 20 000 lieues sous les mers. Bizarre quand même. Allez, on va s'écouter un petit truc.
C'est le pénitencier de Rorapandi, le tombeau de l'homme blanc.
Mais je croyais qu'on l'avait aboli.
Rien de ce qui profite à cette nation exécrée n'a été aboli. Vous verrez mieux de quoi je parle avec ça.
Qu'y a-t-il dans les sacs qu'il transporte?
Des nitrates et des phosphates pour les explosifs. Les semences de guerre. Il charge une pleine cargaison de morts. Et quand le navire regagnera son port d'attache, le monde mourra plus sûrement. Je fus moi-même l'un de ces pitoyables déchets que vous voyez là. Regardez encore, professeur. Je veux que vous n'oubliez jamais ce que vous avez vu.
J'en ai vu assez comme ça.
J'en porte à jamais les stigmates, professeur.
Ouais, on en sait un peu plus sur Nemo, mais j'en parlerai un peu plus tard, après, quand on abordera ce qu'on a, notre ressenti sur le film. Sinon, au niveau de la création de l'équipe et du scénario. Donc, du coup, bah, vas-y, ça, tu connais bien cette partie-là, vas-y.
Ouais, Fleischer, lui, il a été surpris sur le coup d'avoir été choisi pour réaliser le film. Parce que donc, c'est le fils de Max Fleischer et neveu de Dave Fleischer. C'était des grands rivaux de Walt Disney. Et donc, créateur des studios Fleischer, est connu des dessins animés comme Betty Boop et Popeye. Et donc, avant d'accepter de travailler pour Disney, donc, à Fleischer, il a demandé à son père, dis donc, t'es d'accord pour que j'aille travailler chez Disney? Et donc, il lui a dit, bah ouais, vas-y. Et puis, au passage, bah, t'as qu'à dire, à Disney que j'aime bien son travail, quoi. Comme quoi, il a bon goût en matière de réalisateur. Et donc, Fleischer a été engagé en raison de son travail sur le format Cinémascope avec le film Arena, donc à 53. Bien qu'il semble que techniquement, le film a rencontré plus de difficultés avec le tournage sous-marin. Le choix d'adapter l'œuvre de Jules Verne a permis de simplifier le travail sur le scénario. Toutefois, Fleischer se souvient que l'adaptation n'a pourtant pas été aisée en raison de l'absence de trame générale dans l'histoire, le livre étant plus une collection de faits. Pour les acteurs, Disney décide pour la première de faire appel à des personnalités connues. L'une des plus impressionnantes distributions pour le film Disney, Kirk Douglas interprète le fringant marin Ned Land. Il faut dire qu'il est spécial quand même comme personnage. James Mason en machiavélique Capitaine Nemo. Paul Lucas, le distingué professeur Pierre Aronnax. Et Peter Lorre, son dévoué domestique.
Ouais, et puis bah, comme j'avais dit tout à l'heure, hein, c'est que des personnes de chez Disney, que ça soit le chef décorateur, le décorateur, le machiniste, tous des mecs de chez Disney. Allez, on va s'écouter un petit extrait.
Capitaine, un calmar géant à l'arrière. Vitesse d'alerte, en avant toutes. L'hélice est engagée. Décharge maxima.
Bien, capitaine.
Décharge.
Impossible, capitaine, les éléments sont grillés.
Alors il faut se battre en surface. Tout le monde dans la chambre de veille.
Bien, capitaine.
Purgez les ballasts. Parez à faire surface.
Ouais, Ouais, et c'est là qu'on a la grosse bataille avec le calamar géant. Bon, donc après, les studios, bon, donc du coup, la plupart des scènes sous-marines ont été réalisées dans un studio construit spécialement au studio Disney de Burbank, le stage 3, d'une superficie de 1765 mètres carrés, qui comprend un réservoir central de 335 mètres cubes, profond de 2,60 mètres. Et il y a d'autres scènes même qui ont été tournées dans un bassin extérieur du studio Fox. Les scènes dans les îles, elles ont été tournées en Jamaïque et dans les environs de San Diego. Les scènes en mer ont été tournées au large de Nassau, aux Bahamas, durant 8 semaines avec une équipe de 54 personnes. On note aussi que le Nautilus, lui, il a été conçu par Harper Goff, qui a été engagé par Walt Disney pour concevoir... le parc Disneyland.
Donc c'est pas n'importe qui déjà.
Bah ouais. Le sous-marin, il a été reconstruit à l'échelle, soit 200 pieds, c'est-à-dire 61 mètres, en respectant l'aspect donné par Jules Verne, hein, donc un monstre sous-marin avec ses éclairages avant ressemblant à des yeux dans l'eau sombre. Donc ils ont vraiment respecté les écrits de Jules Verne. Et le calamar, lui, il a été construit avec du caoutchouc, des ressorts, des tubes flexibles, du tissu de verre et du plastique. Faut savoir aussi qu'il possède des tentacules de 12 mètres de long, hein, et puis des antennes aussi de 15 mètres. Il peut se lever de 2 mètres, pratiquement 2 mètres 44 en dehors de l'eau avec ses tentacules qui s'agitent. Et son animation nécessite quand même 28 personnes contrôlant des vérins à air comprimé ou hydrauliques. Et la pieuvre, elle, enfin le calamar, il a été dessiné par Chris Mueller et transformé en appareil mécanique par Robert Mathieu. Bon, faut savoir aussi que cette scène-là de combat, elle a été très difficile à tourner, parce qu'ils ont eu pas mal de problèmes techniques. Il l'avait tourné une première fois, et puis ça a été visionné par Walt Disney. Walt Disney, il a fait « Bah, c'est de la merde, vous me refaites tout. » Parce que la maquette était pas super tip-top. Et du coup, ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils pourraient rajouter pour que ça soit encore plus réaliste. Et c'est là que du coup... ils ont rajouté la tempête, l'eau, etc. Et donc du coup, c'est pour le film, il devait pas coûter autant. Et c'est pour ça que le fait de tout refaire, refaire des décors, refaire des maquettes et l'animation du calamar, ça a explosé les budgets. Mais bon, après, ça rend vachement mieux. Et puis le fait aussi que ça soit tourné dans du un peu c'est le crépuscule quoi, il fait un peu nuit. Voilà quoi, donc du coup la nuit, la tempête, tout ça, ça faisait un peu ça cachait un petit peu les défauts parce que je crois qu'on voyait même les câbles dans la première version. Alors que là du coup c'est bien fait là quand même. Bon allez, on s'écoute un dernier extrait. Et puis après on fera notre petit aperçu. Ouais, donc ça c'est le petit extrait quand Nemo joue de l'orgue. Il y a une histoire sur l'orgue aussi. C'est que l'orgue, quand ils l'ont chiné, ils ont été chez un brocanteur, enfin bref, ils ont vu un super gros orgue. Le gars il a dit non mais il marche plus. Et l'équipe technique ils ont dit on s'en fout parce qu'en fait du coup ils ont remis une bande derrière. Quoique, par contre, c'est James Mason qui a l'air de jouer. Alors, est-ce qu'il a vraiment appris? Parce qu'à un moment donné, il est filmé de loin et on voit ses doigts qui font vraiment les notes. Alors, est-ce qu'il savait jouer vraiment du piano ou...
Peut-être connaître le morceau par cœur.
Ouais, je sais pas. Bah, sinon, toi, tu l'as trouvé comment ce film-là?
Pas mal. Je sais même plus si c'était la première fois ou la deuxième fois que je le voyais. Bon, le début, c'est un peu longuet, mais sinon, l'ensemble du film, c'est bien. Bah, déjà, c'est du Jules Verne, donc ça peut être que bien. Mais j'ai bien aimé, surtout le personnage joué par Kirk Douglas, qui cherche à shipper, enfin, puis ça, il cherche à se sauver, lui, même quand ils vont sur l'île. Mais sinon, le film, ça fait un bon truc d'aventure, une ambiance, comment dire... Bah, ils partent à la recherche de la bête, quoi. Ils savent pas s'ils vont la trouver ou pas. Puis en plus, il y a pas de carte. Ils cherchent. Et puis après il y a l'autre, la conseil. Il a repéré les cartes du capitaine Nemo. Puis quand il prévient Kirk Douglas.
Ouais, sinon après moi je poursuis. Du coup moi je crois bien que c'était même une des premières fois que je le voyais, où j'ai dû le voir gamin, mais je m'en souviens plus trop. Alors, déjà, le premier truc qui m'a plu, c'est que là, le film, il a été donc fait en 54 et qui respecte l'époque dans laquelle l'histoire a été écrite dans le roman, c'est-à-dire 1868, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Ouais,
1868.
Ouais.
Alors que... ça serait un film fait maintenant, le film se passerait presque maintenant. Donc ça, j'ai trouvé bien que de respecter l'époque, on va dire.
Bah, si on faisait le film maintenant, faudrait qu'ils respectent, faudrait pas qu'ils aient des smartphones et tout ça.
Bah regarde, quand ils ont refait Voyage au centre de la Terre, ça se passe maintenant.
Ouais, c'est vrai.
Et oui.
D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai moins aimé.
C'est moins vrai pour La Guerre des Mondes par exemple, parce que le premier ça se passe à l'époque où ça a été fait aussi, alors que normalement c'est pareil, La Guerre des Mondes ça se passe en 1870, un truc dans le genre. C'est pas toujours vrai, mais là j'ai bien aimé ce petit clin d'œil là, que on est encore les chevaux avec les charrettes, des machines à vapeur, etc. Et puis ensuite, tu te rends compte que c'est vrai que il y a le sous-marin qui détruit les bateaux. Ils partent à la recherche de ce sous-marin-là pour le détruire. Finalement, c'est le bateau qui se fait détruire par le sous-marin. Les trois rescapés donc font la connaissance de Nemo. Et après, on en apprend un peu plus. Nemo, il est un peu parti, il est devenu marginal parce que, comme on l'apprend et comme on l'a vu dans l'extrait, il vient d'une mine un petit peu, une mine, on va dire, un bagne, où ils se servent ce qu'il y a dans la mine pour approvisionner, pour faire la guerre, hein, tout simplement, hein, pour le pouvoir et puis pour créer des armes de destruction et puis tuer des gens. Donc lui, avec une poignée d'hommes, ils sont réussis à s'échapper de ce style-là. Ils ont trouvé une autre île qui s'appelle Vulcania, ouais, c'est ça de mémoire.
Ouais, Vulcania, ouais.
Dans laquelle il a fait une grosse base, dans laquelle il a réalisé il a construit plutôt le sous-marin dont le nom m'échappe, c'est
De quoi, le Nautilus?
Ah, merci.
Mais je croyais que tu parlais d'autre chose, je me suis dit de quoi, non, il cherche quoi?
Non, moi
à
j'ai
part le Nautilus, il y a rien d'autre.
Mais ta vie que tu t'assoupis. Et voilà, donc après on comprend que derrière, les bateaux qu'il détruit, c'est des bateaux qui viennent de ce bagne-là, qui ont dans leur cale une cargaison destinée à faire des armes et que lui, il est détruit. Voilà, quelque part, il fait sa loi et...
Peu importe s'il tue ceux qui sont sur le navire, du moment qu'il a pété le...
Ouais, bon, enfin, après, ouais. Il a... Même à un moment donné, il dit dans le film, hein, il veut faire péter le bateau qui sort de l'île, le professeur Aronnax, il lui dit, mais il y a des hommes, etc. Et il lui fait comprendre que, bah, lui, ouais, mais il a pas de... Il est sans foi ni loi, quoi. Il y va, il a pas de remords. Mais on comprend un peu plus ses motivations. Et je pense que Jules Verne, il avait quand même écrit ça un petit peu pour passer un petit message et dénoncer certaines choses à l'époque où, c'est toujours d'actualité, hein, où on envoie des hommes, malgré que maintenant il n'y ait plus de bagne, il y a quand même des hommes qui partent dans des tunnels sous la terre, gros comme un trou d'homme, pour pouvoir aller chercher des métaux précieux pour faire, par exemple, des batteries ou autre. Hein, voilà, c'était, je pense, aussi un petit message pour dénoncer ça. Bon, après, il a enrobé ça avec l'attaque du calamar, etc. Ça, c'était... Jules Verne, il est connu pour faire des romans de science-fiction, mais ouais, c'est pas mal. Après, c'est vrai que ouais, Kirk Douglas, hein, le film de Ned Land, il est un peu foufou, je trouve. Toujours le comique ouais. De service à balancer des vannes, à se moquer de tout. Ouais, c'est lui que le comique de service. Pierre Aronnax, c'est voilà le professeur droit et carré, c'est lui qui a le savoir entre guillemets, conseil un petit peu naïf sur les bords.
Et puis un peu faucheton, enfin un coup il va vers l'un, il va vers l'autre.
Ouais, il est opportuniste, ouais. Et puis le capitaine Nemo, lui, bon, il y va pas par le dos de la cuillère et il y va franco et on comprend ses motivations. Bon, après pour le coup ils s'en mordent les doigts parce que bon ils font un acte où justement après ça va se retourner contre eux. On va pas dévoiler la fin, mais on va pas dire qu'ils meurent tous, mais comme je dis à chaque fois, ouais, tout le monde meurt. Voilà, bon, on a fini sur cet épisode 21, 20 milieux sous les mers. Donc, c'est un film à voir quand même avec un petit message derrière, je trouve. Après, c'est vrai que la façon de filmer, etc., c'est plus. Ça fait toujours plaisir à voir. Un film de 54, hein, je rappelle. Et, ouais, voilà. Lancez-vous.
Un petit truc que j'ai trouvé un peu dommage, mais bon, si dans le roman c'est comme ça, c'est normal que le film ici. Il n'y a pas d'actrice. Il y a juste les deux au début, là, avec Kirk Douglas. Puis après, il n'y a que des mecs.
Ouais.
Mais après, c'est normal.
Ça m'avait pas choqué, mais bon. Ouais, non, mais tu le dis, mais moi j'ai pas.
Il y aurait pu en avoir une à un moment donné, par exemple, au milieu de film, par exemple.
Ouais, mais c'est vrai.
Qu'aurait cherché à vous parler sur le Nautilus, puis ils auraient fait non, pas de femme à bord, par exemple.
Bah voilà, t'as tout dit. Bah exactement.
Bah oui. Bah non, on aurait pu voir quand même, par exemple, sur un autre navire ou je sais pas moi.
Ah non, c'était une époque où la femme avait sa place. Point. C'était pas je peux venir avec vous, je vais leur taper sur la gueule. Non, il y avait pas d'héroïne comme ça. Hein.
Ah mais histoire qu'il y ait une actrice quoi, tu vois, dans le film.
Eh bien non.
Eh ben non.
Sur ce, on va se quitter, on va se dire à bientôt au prochain épisode. Et puis vous pouvez nous retrouver comme d'habitude, hein, sur les plateformes de téléchargement Spotify, Deezer ou depuis votre application favorite de podcast, et bien sûr aussi sur le blog où vous pouvez écouter l'épisode en direct et nous laisser des commentaires. On vous dit à bientôt Et puis on va se quitter avec le générique de fin. Ciao.
Et bon film. Bon film.
Tout ceci deviendra une force bienfaisante, si Dieu le veut.